Les voies de service, mercredi 27 juin 2018. Bonjour, mon nom est Isabelle Falardeau et je suis en compagnie de Daniel Lachance.
Bonjour.
Daniel. J'attendais que vous me disiez bonjour. Et de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et toujours de ce cher Jean-Sébastien à la, Jean-Sébastien à la liberté, oui. À la liberté. Tous! Allô. À la mise en onde, et qui, sans qui on ne serait rien, n'est-ce pas, messieurs? Et puis, ben aujourd'hui, comme toujours, on va faire le tour de toutes sortes de sujets, les plus éclectiques les uns que les autres. Donc, en musique, Daniel.
Oui, ben je vais vous parler d'un disque qui sort à un bon moment pour le début du Festival de jazz. En première partie, je vous dirai de qui
il
s'agit.
Vous allez nous donner le goût de l'écouter.
Oui, et deuxième partie, je vais vous parler un petit peu de bon, comment on appelle ça?
La toponymie.
Oui, voilà.
Le mot que vous cherchez. J'ai lu dans vos
Le rapport un peu avec la musique quand même, là, mais bon, c'est un beau mot quand même,
toponymie. Excellent, donc vous allez empiéter légèrement dans les plates-bandes de Serge.
Allègrement.
Joyeusement.
Et quant à moi, je vais empiéter dans les vôtres en parlant d'un... d'un article sur la musique autochtone.
Bon.
De... Et puis...
Je vais lire celui-là.
Oui, vous le lirez. Et je vous parlerai des prénoms inoux. Également, voilà. Et quant à vous, Serge, en histoire...
Moi, j'ai la mémoire longue, mes amis. Là, ce que vous me faites ce matin, d'aller piger dans mes sujets, là, comme Daniel.
Mais je vous rappelle que vous avez déjà parlé de musique.
Ouais, mais c'est pas grave, pas grave. Donc, je me souviens.
Ah, OK.
Ça veut dire quoi?
Sur des plaques d'immatriculation.
Ben oui, la devise du Québec, je me souviens. Donc, je décide de vous parler de ça à la suite de la Saint-Jean. Et comme la fin de semaine prochaine, ben, c'est le 1er juillet, la fête de la Confédération, fête du Canada, je vais vous parler des origines de la Confédération, signification également.
Ah, voilà. Des choses qu'on devrait savoir, mais dont on se rend toujours compte qu'on s'en souvenait pas tant que ça, finalement. Alors, on commence tout de suite avec vous, Daniel.
Oui, ben vous savez que le festival de jazz qui commence.
C'est à nos portes ou c'est déjà commencé?
Oui, et j'ai vu un article qui m'a été référé d'ailleurs par notre amie Hélène. Dans le Devoir du 26 juin, donc hier, des nouvelles de John Coltrane.
Ah oui, John Coltrane. Oui,
saxophoniste très reconnu. Donnant aux relationnistes d'Universal Music d'avoir le sens de la formule Both Directions at Once, un album inédit de John Coltrane qui paraît vendredi, serait le Saint Graal du jazz. Et la découverte de cet enregistrement représenterait l'équivalent de trouver une pièce dans la pyramide de Khéops, dixit Sonny Rollins, autre géant du saxophone. L'univers du marketing ne s'embarrasse pas toujours de retenue quand il s'agit de promouvoir quelque chose. Dans ce cas pourtant, tant Rollins que Universal, qui détient l'étiquette Impulse sur laquelle le disque sort, n'ont pas à rougir de leurs affirmations. Ce qu'on a ici entre les mains est du domaine de l'extrêmement rare et du profondément intéressant. Voyons l'histoire qui entremêle les destins d'un demi-dieu du jazz, de son légendaire quartet. On dit-tu quartet, quartet en français? J'ai toujours habitué en anglais quartet, mais en
c'est
français.
Vraiment une excellente question. Je mets quartet, tout de suite nos linguistes sur le dossier.
Okay, donc, le quartet.
Merci, Serge.
Je comprenais McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. Et d'un mythique ingénieur de son, Rudy Van Gelder, l'homme qui travailla à d'innombrables classiques du catalogue Blue Note et qui enregistra aussi Coltrane sur l'immense A Love Supreme en 1964. C'est dans son studio le 6 mars 1963 que Coltrane et son groupe ont enregistré le matériel de ce Both Directions at Once, The Lost Album. Les notes de Van Gelder indiquent qu'ils ont été là de 13h à 18h. Grosse journée, quand même. On travaillait fort, les gars.
Mais quand même, hein?
Bon, on n'a pas tout besoin de 8 heures pour faire une journée d'ouvrage. avant d'aller compléter à Manhattan une résidence de 2 semaines au club Birdland. On ne sait pas ce qu'il venait initialement faire, peut-être répéter pour la session prévue le lendemain avec le chanteur Johnny Hartman, raconte en entretien Ken Drucker, coproducteur du disque avec Ravi Coltrane, fils de John et saxophoniste émérite lui aussi. L'année de l'enregistrement de l'inédit, c'était 1963, soit 4 ans avant le décès de Coltrane, qui est mort en 1967.
Oui, j'étais en train de faire le calcul.
C'est long, hein? L'album John Coltrane and Johnny Hartman, largement considéré comme un incontournable de toute discothèque jazz, sera effectivement enregistré le 7 mars 1963, car c'était ainsi dans le monde du jazz au début des années 1960. Certains tutoyaient côtoyaient quotidiennement le chef-d'œuvre. Le 6 mars 1963, Coltrane et son groupe passent l'après-midi à enregistrer de nouvelles compositions et différents morceaux auxquels ils consacrent quelques prises. À la fin de la journée, Coltrane quitte le studio en emportant le ruban de référence de l'enregistrement dans la maison qu'il partage avec son épouse d'alors, Naima. Et ensuite, rien.
Rien.
Disparu. Il faudra attendre plus de 55 ans avant d'entendre parler de nouveau de ces pistes.
Wow.
Selon Ken Drucker, la famille de Naima a retrouvé chez elle différents rubans après son décès en 1996. Ce qui compose Both Directions a toutefois ceci de particulier qu'il s'agissait d'une session complète proposant différentes interprétations des mêmes morceaux. Le matériel d'un album, en somme, est dans une excellente qualité sonore. On apprend plein de choses intéressantes sur le groupe avec ce disque, estime Ken Drucker. Les albums de Coltrane, Kim Pulse sortaient à l'époque, avaient tous un certain côté commercial. Ballads, Hartman, Coltrane et Duke Ellington. Alors que ce qu'on a ici est très différent. C'est à mon sens plus près du son que le groupe avait sur scène. Et ça indique à la fois où le groupe venait et où il s'en allait musicalement. John Coltrane était alors en pleine période d'ébullition créatrice et de recherche à la fois musicale et spirituelle. A Love Supreme marquera le point culminant de ce travail, mais aussi un tournant à partir duquel le jazz du saxophoniste se fera plus résolument free. Mais nous n'en sommes pas là en 1963. Il commençait à sortir de cette gravité harmonique, indique en entretien le saxophoniste Yannick Rieu, à qui le devoir a demandé d'écouter Both Directions pour avoir ses impressions de spécialiste de Coltrane. Harmoniquement, il était à cette époque en train de développer un côté plus abstrait. Quand McCoy Tyner cessait de jouer au piano, ce qui arrive à quelques reprises dans Both Directions, c'est parce que ça décollait tellement par rapport à l'harmonie de base que ça ne servait plus à rien de continuer. Il se détache aussi du swing pour aller vers une pulsation. Mais il ne faut pas mettre ses observations dans le ciment. C'est le même Coltrane qui enregistre un projet très classique le lendemain. On se rappelle que quelques années plus tard, Coltrane avait joué avec Miles Davis sur l'album Kind of Blue.
Il était devenu
la référence en jazz.
Ah oui.
Des 7 nouveaux morceaux retenus sur l'album, 2 n'ont pas de titre. On retrouve autrement Nature Boy, Impressions, sans piano, Villa, Slow Blues et One Up, One Down, seule version connue à ce jour. Yannick Rieu a trouvé le disque historiquement intéressant, comme tout ce qui concerne Coltrane, mais sur le fond, c'est très variable comme qualité, croit-il. Je comprends pourquoi Coltrane ne l'a pas sorti. Les improvisations ne sont pas si développées. C'est très vendeur, hein, dire
ça. Oui, ben oui, c'est sûr que ça empêchera pas les gens de se le procurer quand même, ne serait-ce que pour la curiosité.
Oui, oui. C'est le commentaire d'un musicien. Il dit, ça donne l'impression qu'il s'échauffait. Dans Slow Blues notamment, on entend un gros coup d'archet sur les cordes. Effectivement, un gros coup d'archet sur les cordes d'un saxophone, ça doit faire bizarre.
Oui, pas mal.
Je vais juste voir si vous suiviez.
Ah bon?
Je ne sens pas la ferveur de certains albums. Rieu considère Slow Blues comme l'élément fort du disque, et voilà ici la parenthèse importante. Il se promet d'ailleurs de le jouer en spectacle le 7 juillet dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. C'est vraiment intéressant comme pièce, et plus largement, je dis que c'est variable parce que je compare avec ce que Coltrane a fait de son vivant. Mais autrement, ça demeure Coltrane. Thank you.
on entend bien l'archet sur,
oui, oui.
sur les cordes. Excusez-moi. Et ben moi, je vais vous amener encore une fois ailleurs, mais en même temps, je reste en musique puisque je vous parle du Tehuacan à l'électro, révélations autochtones. C'est un article de Manon Dumais que j'ai pris dans Le Devoir et qui a été publié le 23 juin. Au printemps dernier, la réalisatrice abénaquise Kim Obunsawin lançait au Rendez-vous québécois cinéma un documentaire choc sur les quelques 1200 femmes autochtones disparues et assassinées, « Ce silence qui tue ». Bouleversée par le rapport de la GRC de 2014, celle qui aime véhiculer à travers ses films une image positive des Premières Nations n'a pas pu s'empêcher de s'intéresser au cycle de la violence dans les communautés autochtones. Cette fois, dans la lignée de son documentaire « La ligne rouge » où elle suivait l'évolution de trois joueurs de hockey autochtones, elle part à la rencontre de trois artistes de la relève musicale autochtone. Alliant entrevues et performances, du Tehuacan à l'électro, voyage aux sources de la musique autochtone, illustre en toute simplicité la richesse des traditions musicales des différentes communautés pardon, à travers le Québec et le Canada, ainsi que la fierté et la créativité des artistes héritiers de ces traditions. Depuis la nuit des temps, le Tehuacan, ou tambour traditionnel, est au cœur même de la musique autochtone. Expression des battements de cœur de la terre-mère, le son du Tehuacan permet pour ainsi dire à celui qui en joue d'entrer en communion avec celle-ci, d'être en harmonie avec l'esprit de ses ancêtres. Bien qu'elle ait découvert tardivement la culture de ses ancêtres, Mo Clark, artiste métisse multidisciplinaire issu du territoire numéro 7 en Alberta et vivant à Montréal, allie subtilement spoken word, échantillonnage en boucle, chant traditionnel et improvisation musicale en différentes langues. Ne redoutant pas l'expérimentation ni l'innovation, elle n'hésite pas à inclure les sons vibrants des chants de gorge inuits. Dès son premier album en 2008, Circle of She Story Song, elle a su imposer son style unique. À l'instar de Mo Clark, Shawit, auteur-compositeur-interprète originaire de Malioténam, a été longtemps privé de ses racines. De fait, ce n'est qu'au début de l'adolescence qu'il découvre sa langue d'origine, l'Innu. Au même moment, il s'éprend de la musique Innu grâce au groupe folk-rock Kashtin que formait Florent Volant, présent dans le documentaire de Kim Obunsawin, et Claude McKenzie, au tournant des années 1990. Et, petite parenthèse, je pense que c'est un peu tous la façon dont on a découvert la musique et la langue, une des langues de autochtones, Kashtin. Parce que Kashtin, c'était, moi, en tout cas, c'était la première fois que je m'entendais chanter,
pop,
qui était dans une langue autochtone. Donc, ça a marqué beaucoup, ça a marqué toute une génération, j'ai l'impression. En plus de permettre à de nombreux jeunes autochtones d'embrasser fièrement leur culture, Kashtin a encouragé certains d'entre eux à envisager une carrière dans la musique, dont le jeune Jean-Eudes Aster, alias Shawit. Moi, je ne savais pas qu'il s'appelait Jean-Eudes Aster. Ouais. Oui, vous êtes un spécialiste, Daniel, donc vous étiez au courant. combinant reggae, dancehall, folk et soul, Shawit, qui lançait en novembre dernier son premier album Apu Pekusiaku, signifiant « Nous ne sommes pas seuls », interprète avec aplomb des chansons engagées en créole, en français, en anglais et en innu. Originaire de Wabkop... Excusez-moi, je m'étais pratiquée, mais à chaque fois, je me fais avoir. C'est une langue trop élaborée, c'est trop distingué pour moi. Alors, originaire de Wapmagoustui, au Nunavik, le producteur et musicien Pakeso Mukash, qui écrit « Et Abenaki », s'est d'abord fait connaître au sein de Sir Harmony, Sir Harmony, C-E-R-A-M-O-N-Y, duo chantant en cri et en anglais, lauréat en 2011 du Juno du meilleur album aborigène de l'année pour l'album éponyme Ceremony. Donc, depuis qu'il vit à Montréal, où il enflamme le plancher de danse par son électro aux sonorités autochtones, on le connaît mieux sous le nom de DJ KXO. Ou KXO, là, je ne sais pas comment on va le prononcer.
Ça, je ne pourrais pas vous dire.
Non, c'est... érudition ne va pas jusque-là. Écrit par Jacinthe Baudet, ce documentaire de Kim Obunsawin n'a peut-être pas l'ampleur ni l'ambition du fascinant Rumble, The Indians Rock the World de Catherine Bainbridge et Alfonso Mayorana,
dont
vous nous avez parlé quelques semaines
et
ou quelques
d'ailleurs,
mois.
D'ailleurs, ça joue présentement.
Oui, effectivement.
Je l'ai vu à Art Télé.
Je vais le mentionner
semaine.
À la fin de l'article, mais oui, effectivement,
et
vous pourrez le voir. Donc, c'est peut-être pas aussi ambitieux ni fascinant, mais. Grâce aux propos des trois artistes, du Tewekan à l'électro voyage aux sources de la musique autochtone pourrait s'avérer une formidable source d'inspiration pour les jeunes générations d'Autochtones. Afin de se familiariser davantage avec la musique autochtone et pour prolonger le plaisir, on peut donc c'est qu'on peut se rendre sur ici.radio-canada, radio-canada.ca/Tewekan Electro, TeweikanElectro. Voilà, je ne le répéterai pas. Alors là, vous pourrez regarder et donc entendre des prestations inédites de Shawit, de Mo Clark et de Pakeso Mukash et consulter la ligne du temps de l'histoire musicale des 11 nations autochtones du Québec. Et donc, si vous voulez voir, on parlait de certaines diffusions dans l'article qui sont déjà passées, mais je suis allée voir pour vous et il y a plusieurs diffusions à RTV. Lundi 25 juin, non, ça s'est passé. Mardi 26 juin, c'est passé. Alors, vendredi 29 juin à 1h30, ça doit être de la nuit. Vendredi 29 juin à 10h ou dimanche 1er juillet à 23h. Et les mêmes journées, mais une heure plus tard, vous pourrez voir Rumble. Donc, c'est comme une espèce de duo qu'on présente, deux documentaires, un à la suite de l'autre, sur la musique autochtone.
Ne puisse jamais se briser. Et si c'est le cas, il ne faut jamais oublier que tout peut se réparer. Bienvenue, bienvenue, mon ami.
C'était la pièce Bienvenue par Shawit.
Et, excusez-moi, j'étais encore en train de m'imprégner du Te Huaycan qu'on reconnaissait un peu dans le... c'est ma chanson préférée de son album, cette chanson-là, qui veut dire bienvenue, hein, c'est ça?
C'est...
En fait, c'est le titre de la chanson. Je veux dire, la phrase qu'on entend...
Oui, Chicken veut dire bienvenue.
Voilà,
oui.
Exactement. Excusez-moi. Ça veut vraiment bien mon affaire. Alors, Serge.
Oui, donc, je me souviens, n'est-ce pas, qui est la devise du Québec. Alors, les origines, c'est en 1800...
Sans doute pas la mienne.
Non. Ah ouais, ben oui, oui. Alors, les origines, c'est en 1883 qu'Eugène Étienne Taché, architecte et commissaire adjoint des terres de la Couronne, fait graver dans la pierre la devise « Je me souviens » juste en dessous des armoiries du Québec qui se trouvent au-dessus de la porte principale de l'Hôtel du Parlement à Québec. Vous voyez ça tout le monde?
Là? Oui, on donc il y a la porte, il y a le nom, puis après ça, il y a les armoiries. Ouais.
La devise est alors déjà employée officiellement par le gouvernement du Québec, bien que les armoiries elles-mêmes ne l'arborent qu'en 1939.
D'accord. Ah, donc avant ça, on avait déjà commencé à l'utiliser.
Ouais, ouais. Alors, la signification. Taché ne semble pas avoir laissé de documents mentionnant de façon explicite le sens de la devise. Il a cependant écrit une lettre à Siméon Le Sage, commissaire adjoint des travaux publics, datée du 9 avril 1883, expliquant ce qu'il désirait accomplir au moyen des statues sur la façade de l'édifice parlementaire. Alors, tout autour du Parlement, l'œil aperçoit 24 statues de personnages historiques. À l'origine, elles comprenaient des fondateurs, Jacques Cartier, Champlain, Maisonneuve, des ecclésiastiques, évidemment, Laval, Brébeuf, Marquette et Olivier, des militaires aussi, Frontenac, Wolfe, Montcalm, Lévis, des Amérindiens, des gouverneurs français, Argenson, Tracy, Callière et d'autres, et, dans les mots de Taché, quelques gouverneurs anglais les plus sympathiques à notre nationalité, Murray, Dorchester, Prévost et Bagot, et Lord Elgin, à qui on accorde une place spéciale car on lui attribuait un rôle important dans l'obtention du gouvernement responsable au Canada. Taché laisse essentiellement des espaces vides pour permettre aux générations futures d'ajouter leur propre statut.
Ça, le gouvernement responsable, c'est quand on a obtenu de prendre les décisions ici plutôt que ça soit l'Angleterre.
C'était partagé. Au début, c'était... Parce qu'au début, le gouverneur, le Parlement était simplement consultatif.
C'est ça.
Mais peu à peu... D'où la période de la révolte des patriotes, là, où on voulait des gouvernements responsables.
Oui, oui, oui.
Autant au Canada anglais qu'au Canada français. Hein,
d'ailleurs, effectivement.
Alors, les contemporains ne semblent pas avoir eu de difficulté à interpréter la signification de la devise. Les premières interprétations du sens de la devise que l'on puisse citer sont celles de l'historien Thomas Chappet et du fonctionnaire Ernest Gagnon. Thomas Chappet, dans un discours donné à l'occasion du dévoilement d'une statue en bronze à la mémoire du duc de Lévis, le 24 juin 1895, dit « La province de Québec a une devise dont elle est fière et qu'elle aime à graver au fronton de ses monuments et de ses palais. » Pas de quel palais il parle. Cette devise n'a que trois mots, je me souviens. Mais ces trois mots, dans leur simple laconisme, valent le plus éloquent discours. Oui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du passé et de ses leçons, du passé et de ses malheurs, du passé et de ses gloires. En 1896, Ernest Gagnon écrivait « La devise résume admirablement la raison d'être du Canada de Champlain et de Maisonneuve comme province distincte dans la Confédération. » En 1919, 7 ans après la mort de Taché, l'historien Pierre-Georges Roy soulignait le caractère symbolique de la devise de trois mots qui dit si éloquemment en trois mots le passé comme le présent et le futur de la seule province française de la Confédération. Cette phrase, citée ou paraphrasée, sera cité ou paraphrasé de nombreuses fois par la suite. Quelques personnes ont cherché l'inspiration des trois mots de Taché. L'ethnologue Conrad Laforte a suggéré qu'il s'agissait peut-être de la chanson « Un Canadien errant » d'Antoine Gérin-Lajoie, ou encore le poème « Lueur au couchant » de Victor Hugo. L'écrivain André Duval croit que la réponse est plus simple encore. Dans le vestibule de l'Hôtel du Parlement que l'on franchit en passant sur les armoiries du Québec, se trouvent les armes du marquis de Lorne, dont la devise était Ne oblivis caris.
N'oublie pas.
Qui veut dire gardez-vous d'oublier.
Gardez-vous d'oublier.
La devise du Québec serait donc à la fois la traduction de la devise du marquis de Lorne et la réponse d'un sujet canadien français de Sa Majesté à cette même devise. En 1995, l'historien Mason Wade donnait son avis sur le sens de la devise en écrivant « Quand le Canadien français dit « Je me souviens », il se rappelle non seulement de l'époque de la Nouvelle-France, mais également le fait qu'il appartient à un peuple conquis. » Maintenant, controverse. En 1978, la devise de Taché remplace le slogan touristique « La belle province » sur les plaques d'immatriculation des voitures du Québec, une initiative de la ministre Lise Payette.
Oui, alors, ça ne devait pas plaire beaucoup au Parti québécois, ça, la belle province.
Non. Selon l'historien Gaston Deschênes, cet événement marque le début d'une période où l'on tente de réinterpréter le sens de la devise dans les médias du Canada. Il y a une électrice du Montréal Star, Hélène Paquet, qui a envoyé une lettre ouverte intitulée « Je me souviens, just part of it ». Monsieur, et ça c'est intéressant parce que la dame, écoutez bien, d'après un article que vous avez publié le 4 février, il y a confusion concernant la devise du Québec. Comme vous l'avez dit, elle est de E.E. Taché. Je me souviens, n'est que la première phrase de la devise, ce qui explique peut-être la confusion. La devise va comme suit.
Il n'y avait pas assez de place pour l'écrire.
Oui,
ouais,
ben
ça
oui.
Ça rentrait pas.
Alors, la devise va comme suit. Je me souviens que né sous le lys de France, je crois sous la rose d'Angleterre.
Ah.
Oui. Elle dit « Je suis la petite fille d'Eugène Étienne Taché. Ma tante Clara Taché, Fergasso de Québec, est la seule des filles de E.E. Taché qui, et j'espère que cette information éclairera quelque chose de vos lecteurs. » Alors, ce qu'il faut
se rappeler,
c'est que le lys et la rose sont respectivement les emblèmes floraux des royaumes de France et d'Angleterre. Alors, cette nouvelle information eut une longue vie dans les médias avant d'être étudiée pour la première fois par Deschênes en 1992. Depuis 1978, l'idée que la devise gravée dans la pierre sur l'édifice abritant l'Assemblée nationale du Québec, employée officiellement par le gouvernement depuis lors, soit incomplète et possède une deuxième partie moins connue, se répand largement. Alors, ça a créé des petits débats.
Ben oui. Moi, j'avais toujours appris que c'était en réponse à je ne sais pas qui avait dit que le peuple québécois était sans histoire ou quelque chose comme ça, puis qu'en réponse à ça, on avait dit... Je me demande si je n'ai pas même appris ça à l'école.
Le rapport Durham, je pense. Oui, ouais, c'est M. Durham qui avait dit ça. Ouais.
Enfin, ben, c'est sur cette controverse et ce mystère que se termine la première partie de votre émission Les Voix de service. Et on vous retrouve après une courte pause.
Vous écoutez les voix de service.
Me voilà mal à marcher, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne longue gang, y'a guéri dans pas grand temps. Puis j'en ai assez le bout de la langue qui m'empêche de tout lutter. Puis ça me fait j'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le banc d'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils ternissent pas son garantie 14 carats. Puis j'en ai un, c'est le bout de la langue qui m'empêche de tout lutter. Puis ça me fait bégayer. Quand je mets mes boursouillés, je vous assure, ça me fait boiter. J'ai fait ça l'été passé quand j'étais au Saguenay. C'est en m'en allant baigner qu'une éclovisse m'a pincé de pied. J'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de tout lutter. Puis ça me fait bégayer. Puis d'autres fois j'ai l'habitude. Quand je mange la soupe au pois, j'ai des brumes d'estomac. Pour guérir mon mal de rein, je mange des crêpes de sarrasin. Si ça continue comme ça, ils vont chanter mon libéro. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de tout lutter. Puis ça me fait bégayer. Si vous êtes comme ça, mes amis, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner, vous êtes mieux de vous faire soigner. Avant que ça aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on attend trop longtemps, ça finit par un enterrement. Mais j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de tout. Puis ça me fait bégayer. Amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à tout l'été. Tarim, tam, tiliram, tiram, tariram, tiliram, tiram, tarim, tam, tiliram, tiram, tariram, tiliriram. On mange à l'eau notre pain sec. Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis j'continue à tout l'été. Tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliram, tirum, tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliriram. Ça coûte cher de ce temps ici. Pour pas que ça monte à la grosserie, je me tape fort sur les biscuits. Mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas. À force de me priver de manger, j'ai l'estomac ratatiné. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à tout l'été. Tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliram, tirum, tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliriram. Tout travers et puis le bouquet tout sans l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousue. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas d'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à tout l'été. Tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliram, tirum, tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliriram. Ma boîte à charbon est brûlée, puis j'essaie vite de casser. Ma lumière disconnectée, puis mon dos est pas payé. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, moi laisse à prendre de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à tout lutter. Tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliram, tirum, tarim, tam, tiliram, tirum, tariram, tiliriram.
On vient d'entendre Debbie Lynch White, un extrait de la bande originale du film La Bolduc, une parution de cette année. On vient d'entendre un mix de deux pièces. J'ai un bouton sur le bout de la langue. Ça va venir décourager vous pas, mais qui est donc l'interprète originale de ces tubes?
La Bolduc.
Quelque chose comme La Bolduc.
Oui, oui, La Bolduc. Et pendant qu'on était hors d'onde, on en discutait tantôt et je sais pas si
c'est la même chose. En même temps qu'on
dansait. Ouais. Moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'était une version par Marthe Fleurant en 1967,
oh, fin 60, ouais.
Quelque chose comme ça, 68. Et j'avais jamais entendu parler de La Bolduc avant. Donc,
oui.
C'est Marthe Fleurant qui a remis ça un peu. Avant Debbie Lynch White, finalement.
Mais oui, mais là, quelques en 50 ans, il y a encore une nouvelle génération qui la redécouvre.
Oui, donc l'immortel. D'ailleurs, l'article que je vais vous lire, quel curieux hasard, s'intitule « À l'intersection des rues La Bolduc et Anne Hébert ». C'est un article qui est paru dans la presse plus du 23 juin. C'est donc la semaine dernière. À l'occasion de la fête nationale, la presse a voulu savoir quelle place occupent les chanteurs, musiciens, peintres, cinéastes et autres artistes québécois dans la toponymie officielle du Québec. Et voici ce que nous en avons retenu. Quel est l'artiste qui a le plus souvent donné son nom à des rues, parcs, avenues et autres lieux géographiques québécois, d'après vous?
Colin, Gilles Vigneault?
Wow, on l'a dit en même temps!
Ah, mon Dieu, c'est le fun d'avoir deux perdants.
C'est pas ça, Félix Leclerc.
Ah oui, voilà.
Non, ouais, c'est
la deuxième chance. Non, mais vous étiez pas loin quand même avec Vigneault.
Ouais.
Sans surprise, Félix Leclerc est ce champion selon nos recherches sur le site de la Commission de toponymie du Québec. Lorsqu'on tape son nom complet dans la barre de recherche, on obtient 87 occurrences.
Oh.
Mais attention, fait remarquer le porte-parole de la commission, Jean-Pierre Leblanc. Chacun des 40 tronçons de l'autoroute Félix Leclerc traversant une municipalité équivaut à une occurrence. Donc, on peut en enlever 39.
Donc, il compte plusieurs fois.
87.
Ouais, ouais. C'est quand même pas mal.
Ouais, bon.
Donc, Gilles Vigneault, peut-être qu'il arrive avant Félix Leclerc, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'autoroute Gilles Vigneault, c'est
encore.
Ça.
Encore.
Oui, mais comme il est 60... vivant... Ouais, mais comme il est vivant... Ouais. Leclerc, comme il est décédé, on nomme des places.
C'est vrai que c'est plus facile de donner
peut-être,
des noms.
Peut-être plus délicat quand c'est...
Effectivement.
Ouais, ouais.
Donc, retenez ça
la prochaine fois
avant de répondre
vivant.
Trop vite.
Oui, mais il est encore vivant, mais il est déjà immortel.
Ah oui, ben c'est sûr. Ouais, ouais.
OK. Ah, mais je suis pas sûr que ça compte à la toponymie. On en reparlera tantôt.
Alors, c'est bien toponymie. Hein, juste parenthèse, toponymie ou toponymie?
J'ai dit quoi, là?
C'est toponymie, Isabelle.
C'est bien toponymie. Hein? OK, je voulais juste être sûr que je m'étais pas trompée.
Je recherchais le mot, mais dans ma tête, j'ai pas la fonction recherche dans le texte.
C'est toponymie ou toponymie?
Toponymie.
Nimi?
Okay. C'est selon Jean-Sébastien.
OK, on va juste dire Nimi. Ça va jusqu'à la fin de l'article.
C'est ça. Topo.
Oui, donc même en regroupant ces 40 occurrences en une seule, le grand auteur, compositeur, interprète est toujours premier.
Ah, bon, alors ça répond à la question.
Probablement parce qu'il est mort.
Parce qu'il est mort,
ça
peut-être.
Ouais.
Peut-être,
ouais. Le 4 juin dernier, la bibliothèque Félix Leclerc est devenue le 87e lieu portant le nom du célèbre chanteur et poète. Au fil des ans, plusieurs municipalités ont baptisé de noms d'artistes les rues de secteurs ciblés à l'intérieur de leur territoire. À Rimouski, par exemple, un secteur regroupe des rues au nom de chansonniers et d'auteurs. C'est ainsi que la rue Labolduc fait un lien entre les rues Anne Hébert et Isidore Soucy. Ça vous dit quoi, c'est
Isidore Soucy? Ben oui.
La famille Soucy.
Ben,
oui, les soirées canadiennes.
Ça me dit rien
voilà,
du
voilà.
J'ai honte, mais...
C'était un
violoniste.
Folkloriste.
Ah oui, ben oui. Oui.
Ben, voilà, bon.
Il y avait la famille Soucy.
Ouais,
oui, ben,
c'est ça.
C'est un
ça.
Groupe,
oui,
là, oui. Ensemble, oui.
Et à Montréal, au nord du Parc Laurier, les rues Pauline Julien et Jerry Boulet se rejoignent.
Ça aussi, c'est une belle confluence.
Ouais, ouais. Mais je savais pas ça. Je viens de lire.
Ben, moi non plus, je
savais
pas.
Je viens de lire ça, je l'ai lu.
Mais par contre, je les connais les deux.
Ouais. Ouais, ça, ouais. Et ils sont morts les deux. C'est pour ça que leur nom est là.
Ouais,
à noter cependant que ces deux rues ne se trouvent pas dans un secteur réservé au nom d'artistes. En plus de la grande salle de la Place des Arts, l'ancien chef d'orchestre Wilfrid Pelletier, de 1896 à 1982, a 6 rues et parcs à son nom. Quand même, hein? On connaissait tous la salle Wilfrid Pelletier, mais les rues, je ne savais pas.
Non,
ainsi qu'une montagne. Il y a une montagne à son nom.
Une montagne?
Oui, assise à 65 km au nord-ouest de Baie-Saint-Paul, le mont Wilfrid Pelletier a été nommé dans le cadre d'un programme de désignation toponymique commémorative de 1995. Nous avons trouvé d'autres curiosités dans le site de la commission. L'impasse Jerry Boulet à Cantley, en Outaouais.
Ça, c'est pas fin, par exemple,
ouais,
une impasse.
Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais bon. C'est mieux que rien du tout. Le barrage Albany, du nom de la cantatrice née Emma Lajeunesse, que je ne connaissais pas, mais bon.
Albany.
Au nord-ouest de Latuc, ou encore le ponceau Gabriel Roy à Sept-Îles. La ville de Rigaud a même eu une halte routière Olivier Guimond, rebaptisée aire de service de Rigaud en 2010.
Ben là,
donc,
franchement,
ça a disparu.
Il aurait pu garder son nom.
Et en passant, je n'ai pas trouvé dans l'article, ils n'en font pas mention, mais il y a une ruelle ou une impasse Beau Dommage maintenant à Montréal.
Ah
aussi.
Oui?
Oui.
Ah oui, ben ça c'est intéressant.
Ah ben peut-être de la rue dans le coin de Saint-Vallier, peut-être.
Ouais, ouais,
67-60 rue Saint-Vallier.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il y a une murale, tout ça.
C'est vrai qu'il y a des gens qui vont sonner à la porte de cette maison-là. Hein?
Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, petite parenthèse rapide. C'est pas Michel Rivard qui l'a écrit, celle-là. Je me souviens pas. C'est pas Pierre Bertrand non plus. Mon Dieu, comment il s'appelait l'autre. En tout cas, quand il a écrit ça, cette chanson-là, il pensait jamais que le groupe deviendrait
Huet?
Populaire comme
quelque
ça.
Quelque chose Huet?
Non, Huet, il faisait partie de Beau
Dommage,
mais il était pas...
En tout cas,
non, au contraire, il écrivait, mais il chantait
De
pas.
Quoi je me mêle?
Mais oui, ça pour dire qu'il n'aurait jamais pensé que le groupe deviendrait, puis la chanson deviendrait aussi populaire. Donc, il a donné sa vraie adresse.
C'était son adresse? Oui, au moins, il n'a pas donné l'adresse à quelqu'un d'autre.
Il a eu un méchant choc quand il a vu le courrier du banc a commencé à rentrer.
Alors, c'est Robert Léger.
Robert Léger, oui, voilà.
Tu sais,
c'est le seul que j'ai pas
noté.
Donc, c'est lui qui a écrit
crédit,
ça. C'est lui qui demeurait
crédit.
Là à l'époque. Bon. Et à Charlemagne, depuis le 31 janvier 2007, un tronçon de 1,5 km de l'autoroute 640 a été rebaptisé boulevard Céline Dion en l'honneur de devinez qui.
Ben ouais.
La petite fille de Charlemagne.
L'enfant chéri de cette municipalité. Quelques commerces y ont une adresse, un restaurant Saint-Hubert, une station-service Ultramar, un Loutec, mais le nom du boulevard n'est pas officialisé par la commission de toponymie. Tout simplement. Ah, pourquoi?
Parce qu'elle n'est pas décédée?
Et voilà, ah, elle est encore vivante.
Donc, on peut donner le nom, mais ça ne peut pas être officialisé à la commission de la toponymie.
Voilà. En accord avec une résolution adoptée en 2002 à la 8e conférence des Nations unies sur la normalisation des noms géographiques, un délai d'un an est prescrit après la mort d'une personne avant que son nom soit attribué à un lieu. En passant, René Angélil, mort le 14 janvier 2016, n'a toujours pas de lieu à son nom, selon la banque de la commission. Et un petit mot sur la méthodologie qui est utilisée. Le site de la commission de toponymie est l'outil par excellence pour connaître l'origine des noms, mais il ne dit pas tout. Par exemple, certains édifices publics ne sont pas recensés. La salle Wilfrid Pelletier, la salle Denise Pelletier, Cégep Gérald Godin, etc. La commission n'officialise ni les noms d'école, ni ceux des cégeps. D'autres peuvent l'être sur demande. De plus, plusieurs lieux sont désignés uniquement par le nom de famille d'un artiste. On retrouve par exemple plusieurs rues Bordua faisant référence à Paul-Émile Bordua, alors que d'autres rues renvoient à d'autres individus ayant porté le même nom de famille.
Ah ben donc, oui, c'est ça, quand c'est juste le nom de famille, effectivement. Oui.
Pour les besoins de cet article, nous avons uniquement retenu la combinaison prénom-nom, sauf pour les artistes étrangers.
Alors, puisqu'on est en toponymie, poursuivons avec les prénoms Inuits, de plus en plus populaires chez les Inuits. C'est un article que j'ai pris sur le site Ici Côte-Nord de Radio-Canada et c'est signé Jean-Louis Bordelot.
Préparons-nous à intervenir. Parce qu'Isabelle va s'enfarger.
Oh, vous êtes gentil. Oui, ben oui, là, je parle d'un article sur les noms. Alors, bien sûr,
mais un peu pratiqué,
mais quand
ça.
Même. Maïkan, Wapikun, Chipis. Les prénoms Inuits regagnent leurs lettres de noblesse. Après avoir francisé leur nom durant des années, les Inuits choisissent de plus en plus des prénoms dans leur langue pour leurs enfants. C'est une petite révolution tranquille, lance d'emblée la directrice de la langue à l'Institut Tchakapesh, Hélène Saint-Onge. L'influence du catholicisme a beaucoup baissé chez la nouvelle génération. Avant, nos parents, par exemple, je suis sûre qu'ils n'ont jamais pensé à donner un nom Inuit à leurs enfants parce que les prêtres avaient leur mot à dire. C'est toujours des noms reliés à la nature, des noms d'animaux. On peut avoir Mashkus, qui veut dire ourson. On a Maïkan ou Wapush, qui signifie loup et lièvre. Ça peut être Chipis, petite rivière, ou Mishtashipu, grande rivière.
On a tendance à faire le contraire. Des fois, on donne des noms de personnes à nos animaux.
oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais une chatte qui s'appelait Julie, mais voilà. c'est mon mari qui l'a en ce moment. Elle est encore vivante. Bonjour, Julie. Céline Bellefleur, enseignante en maternelle à Chichtetchinou, à Maliotenam, estime que 5 élèves en moyenne par cohorte portent aujourd'hui des prénoms Inuits. De plus en plus, les parents prennent le temps qu'il fait quand le bébé vient au monde. Un exemple, quand un enfant est né, il ventait du nord, on l'a appelé Chiwetin, qui veut dire vent du nord.
OK, tu ne l'appelles pas par la température.
Ben,
moins 17.
Non, peut-être que grand froid, ça fait joli. Hein.
Ouais.
Parce que Chiwetin, c'est poétique. Là.
Oui, c'est plus que moins 17.
Et puis c'est plus poétique en tout cas que Michel ou Armand, ça c'est certain. Ouais. Mais là, j'ai rien contre les Michel et les Armand.
Ouais, fais attention. Ouais, attention. Hein?
Elle ajoute que l'inspiration des parents provient parfois du nom de leurs ancêtres. On s'est dit, prenons des prénoms Inuits qui vont bien aux enfants pour que ces enfants soient fiers de porter un prénom Inuit. C'est une forme de décolonisation, ajoute la directrice générale de l'Institut Tchapakesh, Marjolaine Tchernich. Elle-même a prénommé son enfant Wapishkus, qui signifie « petit ours polaire ». Elle a choisi ce prénom parce que quand il est né, il était tout blanc et tout joufflu.
Oui, mais peut-être qu'à 47 ans, il va trouver ça moins drôle.
Mais il va se rappeler que sa mère l'a regardé avec affection quand il est né, puis ça va toujours rester. Par contre, il n'est pas rare que certains Inuits utilisent un nom plus facile à prononcer pour les non-autochtones. Marjolaine Tchernich raconte que son fils, Wapishkus, est ainsi parfois appelé par le diminutif Wapish. Mais quand il va chez Starbucks, puis qu'il demande un café et qu'on lui demande son nom, il répond Brian. Ça ne lui tente pas de l'épeler chaque fois. Cependant, les prénoms francophones ont toujours été prononcés à la manière de la langue Inuit. Par exemple, Jean-Baptiste se dit Chapatèche, Pierre devient Pienne, tandis que Marie est prononcée Malie. Même le nom de famille Saint-Onge s'écrit Chétouche. Une autre pratique courante chez les Innus consiste à user d'un surnom pour identifier quelqu'un. Ce surnom renvoie à son caractère ou encore à une de ses habitudes. En entrevue, l'ethnolinguiste de renom José Mayotte prend l'exemple d'un certain Innu du Labrador nommé Edward Rich, surnommé Cheche Pateo, ce qui signifie « qui se promène tôt le matin ». Dans le contexte de la communication entre Innus, c'est toujours le surnom qui est utilisé pour désigner les individus. Les surnoms sont en quelque sorte un peu secrets. On ne peut pas les utiliser dans tous les contextes. On ne peut jamais utiliser le surnom devant l'individu lui-même. On ne peut pas s'adresser à lui en disant « Cheche Pateo ». C'est comme une insulte.
OK. Fait que dans son dos, c'est correct.
C'est ça. Dans son dos, c'est correct. C'est culturel. Ben, les gens ne sont pas toujours contents de leur surnom parce que ce n'est pas eux qui le choisissent. Ceci explique un peu cela. Alors, comment interpeller un Innu? Quand je rencontre quelqu'un, je l'appelle par son prénom, nous dit donc la directrice de l'Institut Chakapesh. Il est également de bon ton de s'adresser à une aînée ou un aîné, par exemple, avec les mots « nimushum » ou « nukum », qui signifie « grand-père » et « grand-mère », même si ce n'est pas notre grand-mère. Il n'y a pas de vouvoiement, ça n'existe pas en Innu. Ça, c'est Hélène Saint-Onge qui nous le rappelle. C'est juste la façon de s'adresser à la personne, ça dépend à qui on s'adresse. Il y a des marques de respect. Avant l'arrivée des Européens, on sait que les noms traditionnels étaient uniques, explique José Mayotte, qui a même écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. C'est-à-dire que, dans un groupe, il n'y avait qu'un individu qui portait tel nom. Ces noms-là n'indiquaient pas le sexe de l'individu. L'autre chose, c'est que les noms n'étaient pas transmissibles. Pour un fils et son père, par exemple, rien n'indiquait qu'entre les deux hommes, il y avait un lien de parenté.
Il n'y a pas de junior.
C'est pas fils d'eux non plus. Ensuite, au 17e siècle, les missionnaires ont commencé à baptiser les Innus avec des prénoms catholiques dans l'ensemble de la péninsule Québec-Labrador. De plus, les prêtres ont tenu à introduire les noms de famille, jusqu'alors absents chez les Innus. Ils utilisent d'abord le prénom en Innu pour en faire leur nom de famille, et ensuite le prénom que le missionnaire avait attribué au père devient le nom de famille du fils. Ce système s'avère peu utile pour retracer les liens familiaux parce que le nom de famille change à toutes les générations. Ce n'est qu'au 19e siècle que gèlent les noms de famille qui deviennent ainsi transmissibles. Les dates où ça s'est cristallisé changent selon les familles, selon José Mayotte. Les Innus ont aujourd'hui trois noms. Ils ont un nom de baptême, comme Joseph, Marie ou Toby. Ils ont un nom de famille en vertu du processus que je viens de décrire. Et la plupart ont un troisième type de nom, ces surnoms, correspondent aux caractéristiques des noms aborigènes, des noms uniques en Innu, non transmissibles et qui n'indiquent pas toujours le sexe. Et en terminant, je vais juste vous donner quelques... je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi vous vous appelez par vos prénoms? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il vantait du Nord? Daniel?
Pas idée.
Non?
Moi, Daniel, je sais que la seule référence, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Là.
J'ai cru
comprendre que cette fois-là, c'est pas les lions qui ont gagné.
Alors, votre mère ou votre père voulait que vous combattiez l'adversité. Et vous, Serge, non plus?
Moi, une cousine de ma mère m'a dit que j'avais été nommé Serge parce que dans les années 50, donc en 49, ma mère avait vu le film Le Père Serge.
Ah, donc c'est un drame russe. C'est religieux. Ah non,
et,
OK, pas.
Un drame, c'est un prince, en tout cas. OK, je pas l'histoire, là-bas. Mais ça finit en
duel. Il était très beau,
duel,
probablement.
Duel, puis il se fait tuer, tout ça. Et ma mère avait pleuré en voyant ce film-là. Ah. Elle avait dit, je suis un garçon, je l'appelle Serge.
Bon. Et moi, je m'appelle Isabelle parce que ma grand-mère, la mère de ma mère, est morte quand ma mère avait 8 mois. Alors, elle avait toujours dit que sa première fille s'appellerait Isabelle. Et juste en terminant, je vous donne quelques noms Innus et leur traduction, prénoms plutôt. Alors, Washishkwan, qui veut dire éclaircie, Chikwan, printemps, Wapikun, fleur, Paushtik, chute, et Washtesiu, fleur coloriée à l'automne. Ça, c'est mon préféré. Serge.
Oui, alors...
On est allé avec le Québec, là, maintenant avec le Canada.
Oui, Confédération canadienne. D'ailleurs, savez-vous que le Canada n'est pas une confédération, mais une fédération.
Mm-hmm.
Je vais vous expliquer
ça. Mais pourquoi
cela.
On parle de la confédération, d'abord?
Ben, c'est ça, je vais vous expliquer ça.
Merci.
Confédération canadienne, ou Confédération du Canada, est le processus par lequel les colonies britanniques distinctes et autonomes du Canada uni, c'est-à-dire Canada uni, c'était Québec et Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse s'unifièrent afin de former un « dominion ». Alors, lorsque la Constitution du Canada est entrée en vigueur le 1er juillet 1867, les colonies sont devenues collectivement provinces du Dominion du Canada. Et ce nouveau pays a été formé sous la forme d'une fédération avec un régime de type monarchie constitutionnelle. Alors, le terme confédération est maintenant souvent employé pour décrire le Canada d'une manière abstraite et l'expression « les pères de la confédération » est un exemple d'une telle utilisation.
Mm-hmm.
Cependant, le terme se réfère habituellement plus concrètement au processus politique qui unifia les colonies de l'Amérique du Nord britannique et non à la structure politique du pays. En effet, la science politique désigne une confédération comme une association d'États souverains où il n'existe pas d'État fédéral.
Ah, d'accord.
Oui, alors ce serait un groupe comme...
Si les États des États-Unis étaient ensemble,
ouais,
mais qu'il n'y avait pas d'État fédéral au-dessus.
Oui, oui. Mais plutôt, on parle plutôt d'une forme de gouvernance de coopération. Alors, une confédération est composée de délégués choisis par les États souverains, tandis que la fédération est régie par un droit externe aux États souverains. Donc, c'est l'État souverain qui délègue.
Oui.
Alors, on fait un peu les deux, en fait, c'est parce qu'on a notre gouvernement
on
Québec.
On a certains champs qui sont
de compétences.
On délègue
au fédéral des députés. On a ça comme un genre...
Peut-être
de...
que c'est ça qu'on se dit, mais peut-être qu'en fait, c'est le fédéral qui nous a délégué certains champs.
Oui, puis d'ailleurs, pour des provinces, on a quand même pas mal de
oui, c'est
de
ça.
Pouvoir.
On a beaucoup d'autonomie.
Parce que
oui,
le terme province, en principe, ne devrait même pas avoir de gouvernement.
Non, c'est ça, oui.
C'est plutôt un district.
C'est plutôt un État.
Ou un État, oui. Ouais.
Ainsi, bien que le terme « confédération » est souvent employé, le Canada est bien une fédération. Donc, on dit « fédération », ça veut dire État souverain. Non. Oui, c'est ça, des droits externes des États souverains. C'est des petites nuances. Via son gouvernement fédéral, l'État fédéral du Canada, en plus d'administrer les territoires canadiens, fédère ainsi les provinces canadiennes qui sont en fait bien des États fédérés. Parce qu'à l'origine de la Confédération, en 1867, le Canada ne s'occupait que des affaires extérieures, de la défense et des droits de douane. Tout le reste était aux provinces.
Ah.
C'est avec le temps qu'ils ont pris un peu de pouvoir, Alors, l'ordre d'introduction des provinces dans la Confédération-Fédération, au tout début, c'était l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse en 1867. Et le Canada avait été créé lors de la conférence de Charlottetown, mais l'île du Prince-Édouard n'est pas entrée tout de suite dans le Canada.
Donc, on avait fait ça en territoire neutre.
Oui, non, mais ils considéraient, eux, qu'ils n'avaient peut-être pas, ils ont hésité jusqu'en 1873.
Ah oui.
Ils sont entrés. Colombie-Britannique en 1871, les territoires du Nord-Ouest 1870, Manitoba 1870, le Yukon 1898, l'Alberta 1905, Saskatchewan 1905, Terre-Neuve et Labrador 1949, le Nunavut en 1999, c'est les derniers.
Donc, quand on a fêté le centenaire de la Confédération en 1967, c'était pas le pays.
Non, c'est ça.
Et le 159 l'année passée.
C'est-à-dire que c'est le centième anniversaire de la. Où ça a été créé, la structure.
Sauf
là, des gens se sont joints, c'est ça.
C'est comme quand on parle de la Ligue nationale qui existe depuis
plusieurs
années.
Il y en a
années,
qui seraient vieux pas mal.
Mais il y avait juste 6 équipes, après ça, 8, après ça.
Parce que ces provinces-là qui ne sont pas entrées, parce que le Canada a été créé d'Est. En partant de l'Est en vers l'Ouest. Alors, au début, mais c'est ça, la Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard voulaient rester des colonies britanniques. Terre-Neuve est restée colonie britannique jusqu'en 1949.
Ah, quand même!
Ouais, ils ne voulaient pas...
Ils voulaient, c'est ça.
Puis même, il y a
Puis ils ont gardé leur
années.
Fuseau horaire rejoignant
absolument.
Le Canada.
Ouais,
moi, ça m'a toujours fait rire quand j'étais agent de bord, puis on arrivait à Terre-Neuve, puis là, il y avait une demi-heure de différence.
Alors, les raisons de la création du Canada. La fondation du Dominion of Canada répond à une kyrielle d'objectifs. Les objectifs de la Confédération doivent se comprendre par la crainte du voisin américain lors de la guerre de sécession, qui a eu lieu de 1861 à 1865, et qui poussa la colonie britannique à prendre position... poussa la couronne britannique à prendre position pour les États esclavagistes du Sud.
Ah oui?
Souvent, oui, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très connu. Et aux États-Unis, le représentant Nathaniel Prentice Banks déposa même une loi, Annexion Bill of 1866, qui proposait d'annexer l'Amérique du Nord britannique en grande partie à cause du support du Royaume-Uni vis-à-vis du mouvement sécessionniste du Sud. Alors,
eux, ils proposaient d'annexer le Nord pour se battre Non, pour ben mieux pour... se battre contre le Sud?
Ben
ou...
non, parce que la colonie britannique
ah, non, c'est appuyait... c'est que le Canada qui voulait...
appuyait les esclavagistes.
Le ah, Sud, oui. Donc.
Et là, donc, la partie nord des États-Unis, qui était les... qui était anti-esclavagiste, ben, disait on va se protéger au cas où en haut ils nous... Alors, la Fédération des colonies britanniques en Amérique du Sud, du Nord, selon eux, un bon moyen d'assurer leur défense plus adéquatement et ainsi éviter un lourd fardeau financier pour Londres qui se plaignait de payer pour la sécurité de toutes les colonies. Et alors, c'est ça. Pour remplacer le marché, et aussi, à partir de 1846, le Royaume-Uni mit fin aux tarifs préférentiels pour les colonies. Ah, déjà, on commençait à parler des tarifs préférentiels.
Oui, on est toujours là-dedans.
On est entré dans le marché américain.
Alors, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde, Daniel Lachance, merci. Serge Bradet, moi-même Isabelle Falardeau. Je vous souhaite une bonne journée.
Bye.